Vous écoutez l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
Bienvenue chers auditeurs et auditrices dans cette émission Autour du Livre. Alors Autour du Livre, eh bien, c'est un rendez-vous que je vous donne tous les deuxièmes mercredis du mois et une rediffusion le quatrième mercredi à la même heure, c'est-à-dire de 20h à 21h. Et c'est sur le 102.2. Vous pouvez aussi retrouver cette émission en podcast après sa première diffusion sur notre site web www.rtvfm.net. Alors Autour du Livre, eh bien, c'est une émission culturelle, littéraire. Des rencontres avec un ou plusieurs auteurs, illustrateurs, libraires, éditeurs locaux. J'accueille aussi parfois quelques auteurs, illustrateurs, éditeurs de régions voisines. J'invite des lecteurs, lectrices qui souhaitent venir nous parler du livre qui a changé leur vie. Autour du Livre, ce sont des petites annonces sur les événements autour du livre qui se déroulent à Carpentras et les villages alentours. Des lectures à une, deux ou trois voix, des livres coup de cœur, des chansons à texte ou des musiques à thème. En ce mois d'octobre, je reçois trois invités. Caroline Ribes-Ruescas, Michel Deroy et Myriam Daniel. Trois auteurs, des sujets très différents. Je vais vous laisser en leur compagnie. En milieu d'interview, une pause musicale avec Calogero et sa chanson « Danser encore ». Extrait de son album sorti en 2007. Pomme C. Et en fin d'interview, je vous propose d'écouter « Les Voyageurs » de l'album « Dérive » du compositeur et interprète René Aubry. Nous écoutons cette première invitée. Caroline Ribes-Ruescas, bonjour.
Bonjour.
Alors Caroline, vous avez écrit « Ogamis » qui est sorti en fin 2016. Donc c'est une trilogie et c'est un livre qui est édité aux éditions Percée. Alors, Ogamis, pourquoi ce titre-là, Ogamis ?
Alors, Ogamis, si on enlève le S de pluriel au départ, c'est imago, quand on regarde dans un miroir, donc imago. Et l'imago, en philosophie et en psycho, c'est la représentation que chacun a de lui, et de ses proches, et qui n'est pas toujours objective. Chacun se voit comme il a envie, souvent, de se voir.
Il y a une histoire de miroir donc dans ce mot déjà.
Oui, tout à fait. Voilà. Donc j'ai pris le thème du miroir qui a souvent été utilisé par d'autres auteurs, des auteurs des fois célèbres, comme Sartre qui avait imaginé une salle sans miroir dans huis clos, avec le résultat qu'on connaît, c'est-à-dire les personnages complètement perdus et qui ne se connaissaient qu'à travers les autres, puisqu'il n'y avait que les autres pour leur dire qui ils étaient. Pour moi, le miroir, c'est effectivement la représentation que l'humain se fait de lui. Et dans mon histoire, en fait, cette représentation est fausse, puisque mon héros, mon personnage principal, va s'apercevoir que l'image en face, dans le miroir, est un personnage à part entière. Donc c'est un personnage qui lui ressemble, mais qui a sa vie propre, sa famille, qui vit dans un monde derrière le miroir, qui se présente face à son humain, mais qui n'est pas l'image de l'humain en quelque sorte.
Donc là, c'est l'histoire donc de ce personnage-là. Et est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus de ce livre ?
Oui, tout à fait, oui. Donc, il faut dire quand même quelque chose d'important, c'est qu'au départ, j'étais inspirée par des jeunes qui existent réellement, des jeunes un petit peu en marge, et j'ai imaginé, justement, mon héros est un jeune qui est très sensible à ce qui se passe autour de lui, et qui a une sensibilité qui est beaucoup plus importante que celle qu'on peut avoir... En règle générale, il est touché par la violence, l'indifférence, tout ce qui se passe dans le monde, les actualités au quotidien. Sa sensibilité va justement l'amener à s'apercevoir qu'il y a ce monde derrière le miroir que les humains ont complètement occulté de leur vie.
Donc c'est un roman, c'est un roman fantastique.
Oui, alors fantastique parce qu'il y a un autre monde. Hein, donc c'est un roman imaginaire. Je l'ai voulu aussi roman fantastique parce que les sujets traités sont quand même des sujets graves, hein, des sujets qui peuvent être tristes, être poignants. Et en le faisant passer, alors déjà par des personnages jeunes, ça met de la fraîcheur, ça met de l'humour dans l'histoire. Et puis avec les paysages colorés, avec des personnages de l'univers fantastique, ça aussi, ça donnait de la légèreté à l'histoire. Et c'est ce que je voulais, c'est-à-dire faire dire à mes ogamis et à mes personnages certaines choses, mais en restant dans quelque chose de léger et de positif. J'ai essayé tout le long du livre qu'il y ait du positif dans le livre, puisqu'il y a du positif dans la vie. Il n'y a pas que du négatif, même chez les humains, heureusement.
Heureusement, comme vous dites. Donc, Ogamis, qui est une trilogie. Alors, un premier tome qui est sorti aux éditions Percé. Le deuxième tome, donc, va sortir fin d'année 2017 et, je pense, fin d'année 2018, un troisième tome.
Voilà, tout à fait. J'ai mis pas mal de temps à écrire le premier, parce qu'il fallait que l'histoire mûrisse, et puis que c'était mon premier, donc j'étais pas sûre de la finalité. C'était un livre, en plus, au départ, qui devait être distribué dans les écoles et les hôpitaux, voilà. Et puis, on m'a suggéré de le faire éditer et de toucher par ce biais beaucoup plus d'écoles, notamment des écoles, des hôpitaux, sur un territoire beaucoup plus large. Effectivement, maintenant, il est sorti le 13 septembre. Le tome 2 sort, c'est un livre de fin d'année, donc ça fera un an après le tome 1. Et le 3, pareil, bah maintenant, dans la foulée, un an après, donc ça va faire du fin d'année 2017. Et pour le troisième, fin d'année 2018.
Alors, ce premier tome est sorti donc aux éditions Percé. Pourquoi les éditions Percé ?
Pourquoi les éditions Percé ? Parce que déjà j'ai une réponse positive, ce qui est pas évident à avoir. J'avais deux éditeurs qui m'avaient donné des réponses positives. Leur proposition me convenait, en sachant que Percé c'est du compte d'auteur, hein, donc c'est participatif pour la maquette. Je me suis lancée. Alors c'est vrai que c'est très controversé. J'ai eu envie de me lancer dans un compte d'auteur pour voir ce que donnait mon tome 1. Je pense que ça valait le coup. Aujourd'hui, je regrette pas du tout. Je suis maintenant dans des librairies en France, en Nouvelle-Calédonie, en Corse, en Belgique. Donc ça me conforte dans l'idée que les éditions Percé ne m'ont pas choisi, ou qu'en tout cas, mon livre, ça valait le coup de tenter l'aventure. Je les remercie pour ça. Je les ai rencontrés, ils ont pris le temps de lire le livre, je les remercie. Maintenant, j'ai eu la chance de rencontrer une maison d'édition à compte d'éditeur, les éditions Sud-Arène. Et c'est vrai que comme beaucoup d'auteurs, être pris à compte dans une maison à compte d'éditeur, c'est un peu... le Graal et le début d'autre chose. Donc, à partir de la rentrée, je remercie les éditions Percé parce qu'ils m'ont mis le pied à l'étrier. Je ne l'oublierai pas. Mais je passe aux éditions Sud-Arène et je remercie David Martin d'avoir fait cette proposition. Et donc, je continue l'aventure chez Sud-Arène à partir du tome 2 et le tome 1 qui sera réédité chez eux. Voilà.
Comment a commencé un petit peu l'écriture pour vous ? Qu'est-ce que c'est qui vous a mis un peu le pied à l'étrier, qui a fait que vous êtes décidé à écrire votre premier livre ?
Alors, je suis dans l'imaginaire depuis mon plus jeune âge, dans le monde du spectacle depuis très très petite. Je fais de la danse depuis toute petite et j'ai toujours aimé les univers imaginaires. Je lis énormément depuis que je suis toute petite aussi. Je dévorais... beaucoup d'imaginaires très jeune. Je me faisais disputer parce que je lisais entre midi et deux. Quand je rentrais, je mangeais vite, je lisais le soir, on me disait d'éteindre la lumière, je la rallumais. Alors après toutes les séries qu'il pouvait y avoir à l'époque, je pense que j'ai lu tous les clubs des cinq qu'on connaissait à l'époque, les clans des sept. Après je me souviens de Cro-Blanc, je me souviens de Sans Famille. Donc j'étais dans ce qu'on appelle le fantasy aujourd'hui, dans l'imaginaire et aussi dans des histoires autres, puisque Sans Famille, Les Misérables, voilà. Mais j'ai toujours eu besoin d'être bercée par des histoires. J'ai lecture, musique, danse. Je me suis dirigée sur un bac littéraire. Mais je faisais toujours de la danse.
Une ride dans la glace, je me fais vieux. Dans le lit, j'ai de la place pour deux. Avant que la vie ne passe, je veux garder l'envie. Une ride à la surface, sommes-nous heureux? La lumière s'éteint un peu à peu. Avant d'être dans le noir, je veux garder l'espoir. Et danser encore.
J'ai commencé des études littéraires et mon papa a dû croire que j'allais continuer la fac, mais en fait j'étais en danse-études et j'ai choisi la danse et je suis partie dans le milieu du spectacle. Danseuse, chorégraphe, je faisais de la mise en scène, je m'occupais d'imaginer, hein, je faisais pas, mais d'imaginer les décors, d'imaginer les costumes. Ce sont dès qu'il s'agit d'imaginer, faut me demander. Donc pendant des années, le spectacle. Donc j'écrivais quand même mes histoires, j'avais des spectacles d'une heure, de deux heures, il y a quand même beaucoup de choses à mettre en place. Et puis j'ai passé un professorat, j'ai commencé à intervenir dans des associations, dans des centres aérés, dans des écoles, en expression corporelle, je mêlais de la musique avec des percussions, et je suis intervenue aussi auprès d'associations d'enfants en difficulté, avec des difficultés tout à fait diverses. J'ai eu des enfants trisomiques, handicap. Mmh. Et à chaque fois, je m'adaptais. Et à chaque fois, on arrivait à faire même des spectacles. Hein. J'ai eu des petits spectacles avec des enfants handicapés. Et j'ai rencontré tout un tas d'univers d'enfants dits marginaux et qui ont des univers merveilleux. Mmh. Et qu'on essaie de mettre souvent dans un moule, plutôt que de les écouter.
Ils sont différents des nôtres.
Ils sont différents. Et de là m'est venue l'idée d'un enfant marginal, et qui, quelque part, est dans le vrai, puisque son monde va lui permettre de voir quelque chose que les humains qui veulent absolument être dans le moule ne voient pas. Et lui, justement, avec sa perception différente du monde, va voir ces choses et va partir avec un peuple, en plus, qui essaie d'aider les humains, qui refuse, justement, de sortir de leur cadre, de leur cadre habituel et de leur convention.
À quel moment, vraiment, vous est venue l'envie de commencer à écrire ce livre au Gamis?
Combien de temps?
Alors le temps, c'est comment dire maintenant. Maintenant l'histoire a bien a facilement 7-8 ans. Mm-hmm. 8 ans où j'ai commencé à avoir l'idée. Où au départ j'étais vraiment partie sur une histoire, mais juste pour partager avec les enfants dans les écoles. Mais j'étais pas partie sur un roman. Mm-hmm. Hein, j'étais partie sur une histoire et voir comment avec les enfants on pouvait partager une histoire pour la présenter en fin d'année dans une école, pour la présenter dans un hôpital lors d'ateliers. Mm-hmm. Et essayer vraiment d'échanger. Mm-hmm. Sur voilà.
Le départ c'était ça, donc.
Ah oui, le départ c'était vraiment ça. Mm-hmm. Inventer une histoire avec les enfants ou la partager en tout cas avec les enfants. Mm-hmm. Et puis de fil en aiguille, il y a eu l'idée de cet enfant qui découvre ce monde, et puis je suis partie dans ce monde fantastique, et puis on en est arrivé à 21 chapitres, donc ça devenait un livre.
Voilà. 21 chapitres, combien de pages?
340 pages.
Et une suite.
Et pour le coup, c'était prévu après un livre, et puis il se passe tout un tas de choses qui m'ont donné d'autres idées, et d'un livre maintenant, effectivement, c'est une trilogie.
Alors, Caroline, donc, Ogami, c'est un livre fantastique, un tome 1, donc d'une trilogie aux éditions Percé. Donc, vous venez de Sénas?
Oui, tout à fait, à côté de Salon de Provence. Mmh. Voilà.
Et comment ça se passe, vos interventions, justement, bon, parce que votre livre, au départ, c'était pour les hôpitaux, pour les enfants dans des écoles. Est-ce que vous poursuivez aussi donc cette idée? Est-ce que vous vous déplacez pour aller dans des écoles? Comment ça se passe, cette partie-là, pour vous?
Oui, alors je suis très très contente justement parce qu'après des mois à faire des salons et des dédicaces, j'ai rencontré des enseignants et j'interviens effectivement alors pour des CM2 et ensuite pour des collèges, parce que les thèmes sont quand même, faut quand même être un petit peu âgé, voilà, hein, avoir une certaine maturité. Alors mes interventions, je me présente brièvement. Les enfants aiment bien savoir comment on écrit, déjà comment on écrit un livre, comment m'est venue l'idée. Donc je me présente, je présente l'histoire. Et on part ensuite sur des ateliers. Je tiens à ce que les enfants prennent conscience que, quels qu'ils soient, ils sont tous capables d'écrire une histoire et d'imaginer. Et souvent, les enfants qui sont en difficulté ont l'impression qu'ils sont, comme on dit, nuls, bons à rien, et qu'ils sont incapables. J'ai des enfants qui se renferment et qui ont l'impression qu'ils sont nuls, qu'ils sont incapables d'inventer une histoire. Et non, j'interviens avec des classes, comme on dit, des classes Ulysse, donc des enfants qui sont en difficulté scolaire, qui arrivent à la fin à sortir des histoires, mais à me faire venir les larmes aux yeux, parce que c'est magnifique. Ah, c'est fantastique. Alors souvent les enfants en difficulté, on passe d'abord par l'oral, c'est-à-dire que on met en place déjà le comment écrire une histoire. Donc comment écrire une histoire, faut déjà avoir une idée. Alors est-ce que l'idée, on peut pas l'avoir dans son vécu? Voilà, hein. Non, j'ai pas d'idée, mais si, qu'est-ce que tu aimes faire? Voilà, c'est souvent les questions de savoir ce qu'on aime faire, quelles sont ses passion dans la vie. Ensuite, donc on a un thème, on a une idée, il faut des personnages, il faut un personnage principal, il faut des personnages ensuite autour, il faut choisir un thème. Est-ce qu'on est plutôt dans le fantastique? Est-ce qu'on a envie de raconter une histoire plutôt réelle, de raconter même sa propre histoire? Et donc les enfants ont leur page et leur stylo, et en premier je leur demande de ne pas toucher à la page et au stylo. Et ça passe d'abord par l'imaginaire. Voilà. Qu'est-ce qu'on a envie de raconter? On peut faire des petits dessins. Moi, je griffonne. Souvent, j'écris, mais je griffonne. Donc, j'ai toujours des cahiers. Et petit à petit, chaque enfant va imaginer une histoire. Pourquoi pas faire des dessins autour? Et c'est ce que je fais, quelles que soient les interventions. Alors, si les interventions sont courtes, ça peut être sur 2 heures. Souvent, les enfants continuent ensuite avec leur enseignant et je reviens quelques mois après. Pour qu'ils me présentent ce qu'ils ont fait. Ou alors sur des ateliers qui durent toute l'année, où j'interviens à plusieurs reprises, où il y a un travail de fond sur les thèmes abordés dans le livre.
Voilà.
Alors ça s'adresse à des enfants à partir de quel âge? CM1, CM2?
Alors, pas avant le CM2, pas avant le CM2. Pour les thèmes abordés, et puis parce que c'est quand même un gros livre et que les enseignants souvent demandent aux enfants de le lire. Et avant le CM2, ça fait quoi? Ça fait des enfants quand même de 10-11 ans, c'est déjà jeune. Ouais. Voilà, CM2 et ensuite collège. Après, ils pourraient travailler dans les lycées, sauf que dans les lycées, il y a le bac. Et je ne fais pas encore partie des programmes du baccalauréat. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Alors, seconde, on peut le faire. Après, première terminale, ils sont dans le travail de leurs épreuves de fin d'année. Mais après, c'est un livre qui est apprécié par les jeunes de lycée et les adultes qui... Voilà, ouais.
Alors justement, pour vous contacter, pour vous joindre, rentrer en relation avec vous, vous avez un site internet?
Alors j'ai ouvert un blog qui s'appelle Lecture d'Arkéa, lecture au pluriel d'Arkéa, où je mets le parcours du livre, où je me présente, voilà, qui est fixe, que j'alimente de temps en temps, qui est fixe et qui me permet d'avoir les petits articles que je mets régulièrement. J'ai une page Facebook. Alors la page Facebook, je la fais fonctionner différemment. C'est-à-dire que je poste régulièrement mes dédicaces, avant les dédicaces, après les dédicaces. Ça me permet d'être en échange constant avec les lecteurs, avec les magasins. Voilà, ça vit comme principe de Facebook. La page Facebook vit beaucoup plus que le blog. Et on peut me contacter par les deux. Je suis sur mon blog pour voir les messages. Et sur Facebook, je réponds tous les jours aux commentaires. Et j'ai même des gens que j'ai rencontrés lors de dédicaces qui me contactent régulièrement pour me donner leur lecture qu'on lui au gamisme et qui me donnent leur lecture au fur et à mesure, les spectacles qu'ils ont vus. Enfin, on échange. J'ai l'impression de les connaître alors que je les ai vus certains une fois lors de dédicaces il y a des mois.
Ça, c'est un petit peu le réseau qui agit un petit peu comme ça. Alors, merci Caroline Ribes-Ruescas. Voilà, et puis écoutez, on se retrouvera peut-être sur un autre événement. Le tome 2 donc sort en fin d'année de Ogamis, et le tome 3 en fin 2018, mais bon, on en reparlera. Merci.
Merci à vous, à bientôt, au revoir.
Vous écoutez l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
Après cette pause musicale avec René Aubry, nous allons continuer cette émission avec un deuxième invité, Michel Deroy, un auteur prolifique à la retraite, qui nous parle de ce qu'il a animé pour un jour prendre la plume et ne plus la lâcher. Tout a commencé en 1985. Nous l'écoutons dans cette interview lors d'un événement autour du livre.
Vous écoutez l'émission Autour du livre avec Annick sur RTVFM.
Michel Deroy, bonjour.
Bonjour.
Michel, vous êtes auteur de polar et vous habitez la Grande Motte, mais vous avez aussi habité Carpentras.
Oui, j'ai habité longtemps Carpentras, le centre-ville de Carpentras, rue Serpentine pour être plus précis.
Derrière la poste.
Tout à fait, exactement.
Donc toute votre jeunesse à Carpentras?
Oui, pratiquement ma jeunesse, j'y suis arrivé, je devais avoir 4-5 ans, j'y suis resté jusqu'à 17-18 ans.
Alors Michel, qu'est-ce que c'est qui vous a amené à l'écriture? Parce que là, je suis devant votre stand et je regarde tous ces livres, mais de nombreux livres. Vous me dites que vous en avez écrit plusieurs, mais d'abord, qu'est-ce que c'est qui vous a amené à écrire votre premier livre?
Alors mon premier livre, alors, tout d'abord c'est parce que j'étais policier que j'ai écrit des romans policiers. Et mon premier livre, ben, j'étais en fonction quand je l'ai écrit, c'était en 1985, exactement.
C'était quoi l'inspiration première?
Alors l'inspiration, c'était mon métier bien sûr, mais c'était surtout parce que j'étais dans une brigade, j'ai fait toutes les brigades, les stupes, les mœurs, la criminelle, mais j'étais dans une brigade, la brigade des mineurs. Et qui dit brigade des mineurs, dit brigade des mineurs victimes, et non pas des mineurs auteurs de délits. Et donc mineurs victimes, alors qui dit mineur dit petit, vraiment tout petit, voire enfant, même pire encore, enfin plus enfant que ça. Et victimes, ben, vous imaginez bien de nombreux sévices. Et tout ça, c'est insupportable, insurmontable. Et par conséquent, je me suis mis à écrire à ce moment-là, quand j'étais à la brigade des mineurs.
Votre premier livre, donc, aux éditions Fayard, est-ce que vous pouvez nous parler de ce premier livre, son titre et son contenu?
Oui, alors le titre, c'est « Sûreté urbaine ». Et c'est un prix, alors c'est Fayard qui m'a édité parce que j'ai eu le prix du Quai des Orfèvres. C'est un prix qui est décerné sur manuscrit et c'est Fayard qui en assure l'édition. C'est un livre qui s'est vendu pour le premier à 170 000 exemplaires, plus les traductions en langue étrangère.
Et alors, sur ce livre-là, vous abordiez c'était quoi l'histoire exactement?
Alors l'histoire, c'est une histoire là, alors tout à fait réelle d'ailleurs, puisque j'étais en train de la vivre. Alors j'ai changé bien sûr les noms et les lieux, mais en gros c'est l'histoire d'un hold-up qui a lieu à Montpellier, et c'est l'histoire donc de ces truands qui ont commis le hold-up, et en parallèle celle des policiers chargés de les identifier, de les interpeller, de les arrêter. En gros c'est ça.
Alors vous me disiez aussi, un petit peu en amont là tout à l'heure, dans vos livres pratiquement toutes les fins, il y a une fin très rebondissante.
Oui, effectivement. Alors, elle est même plus que rebondissante, si on peut dire. C'est pas plus blanc que le blanc. Mais, mais je veux dire par là que mes fins de livres sont à double détente, en ce sens que vous arrivez au bout, vous êtes très surpris par la fin. Et malgré ça, malgré cette surprise que vous éprouvez, malgré ça, il y a encore un rebondissement qui remet tout en question.
36 livres parus à ce jour. Votre dernier livre, vous nous dites quelques mots sur votre dernier livre là?
Alors mon dernier livre, c'est celui-ci, c'est Sévices compris. Mais c'est le dernier pour l'instant, parce qu'il y en aura d'autres.
On va pas dire le dernier, on va dire le nouveau.
Voilà, c'est le nouveau, voilà, mon nouveau livre, le 36e, Sévices compris.
Sévices compris, alors Sévices compris, donc ça parle de quoi?
Alors c'est l'histoire d'un libraire qui est enlevé, séquestré, il ne sait pas pourquoi, et il est remis en liberté sans demande de rançon. Donc il y a une enquête de police qui est faite. En parallèle, il demande qu'un détective privé fasse une enquête pour connaître les motifs de sa séquestration. Et peu à peu, le détective privé découvre des éléments que la victime ne voudrait pas qu'il soit connu. Donc il voudrait que les recherches s'arrêtent là, parce qu'il peu à peu il est rattrapé par son passé. Et là aussi, comme pour mes autres livres, la fin est très très surprenante.
Bon, vous nous donnez l'eau à la bouche là. Hein. Alors, votre maison d'édition?
Alors, c'est une maison d'édition que nous avons créée sous le régime associatif, qui s'appelle les éditions de l'Enclave. Là, j'ai fait un petit clin d'œil à ma famille qui habite à Valréas, l'Enclave. Oui. Et voilà, ce sont les éditions de l'Enclave.
Et qu'est-ce que c'est qui vous a donné envie de créer vous-même votre maison d'édition? Parce que votre premier livre a été édité donc avec la maison Fayard, hein, et là vous avez décidé de créer vous-même votre maison d'édition. Pourquoi?
Oui, mais eh bien parce qu'à l'époque Fayard n'avait pas de collection policière, il ne faisait que le prix du Quai des Orfèvres. Alors ensuite j'ai dû trouver un autre éditeur, je l'ai trouvé, mais bon, mais je me suis fait un peu avoir entre guillemets par cet éditeur. Et pour ne plus tomber dans les pièges, ben, j'ai décidé de créer ma propre maison d'édition.
Le lieu où se situent vos histoires dans vos romans?
Alors, c'est le lieu où je vis. C'est-à-dire, quand j'étais dans le Gard, mes histoires se passaient dans le Gard. Voilà, je les placé, je les situais dans le Gard. Maintenant, je les situe davantage dans l'Hérault, puisque j'habite à la Grande Motte. Mmh. Et je les situe à l'endroit où j'habite, hein, tout simplement. Mais ce sont des faits qui ont lieu ailleurs. Je modifie les noms des personnages, je change les lieux, voilà. Tout simplement.
Alors vous avez eu un prix du Polar de la Grande Motte justement avec votre livre Pour solde de tout compte.
Oui, effectivement, Pour solde de tout compte, qui a eu le prix du Polar de la Grande Motte. Et j'ai eu aussi d'autres prix, mais bon, celui-ci c'est un de mes derniers. Le titre c'est Pour solde de tout compte. C'est un livre qui marche très 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 bien.
Et en quelques mots, de quoi ça parle?
Alors c'est l'histoire d'une jeune malgache qui rencontre un garçon de bar et tombe amoureux l'un de l'autre. Une enquête de police est faite parce qu'il y a des crimes commis dans l'environnement, dans l'entourage du garçon. Peu à peu, lui aussi est rattrapé par son passé. Et là encore, la fin est vraiment très, très...
Oui. Alors, Michel Deroy, donc on peut vous retrouver à quelque part. Comment est-ce que ça se passe pour vos livres? Est-ce qu'on peut les trouver en librairie?
Non. Ils ne sont pas en librairie, ils ne sont ni diffusés ni distribués parce que comme nous sommes une petite maison d'édition, on ne peut pas les diffuser. Par contre, j'essaie de participer le plus souvent possible à des journées de signature, comme celle qui nous réunissait il y a quelques mois, au mois de juillet, à Cavaillon. Voilà, sinon, voilà, c'est à l'occasion de signatures comme ça qu'on peut les trouver. Et là, je répondrai à toutes les questions des lecteurs. D'habitude, c'est moi qui les posais les questions quand j'étais en fonction, mais depuis quelques temps, j'y réponds.
Vous avez changé de rôle.
Voilà. En fait, je n'avais qu'un droit lorsque j'étais policier, c'était celui de me taire. Et maintenant, il est question qu'on enlève ce droit. Donc je peux parler, donc je peux répondre aux questions qu'on me pose.
Et puis vous avez écrit 36 livres.
Oui, 36 pour l'instant.
Pour l'instant, vous faites bien de dire pour l'instant. Alors on peut vous retrouver aussi sur votre page Facebook, Michel Deroy.
Oui, j'ai une page Facebook où on peut me retrouver et me poser des questions auxquelles je me ferai plaisir de répondre.
Oui. Et on peut aussi peut-être se procurer vos livres de cette façon?
Absolument, il suffit simplement de le signaler, de me l'indiquer. À ce moment-là, on conviendra d'un mode de communication moins visible, mais qui nous lira, le lecteur et moi, l'écrivain, de façon à pouvoir concrétiser cet achat.
Merci Michel Deroy.
C'est moi qui vous remercie.
Vous pouvez retrouver Michel Deroy sur des salons du livre, le 15 octobre à Bouillargues dans le Gard, le 26 novembre à Poulx, toujours dans le Gard. Nous allons faire une petite pause musicale avec Florent Pagny. Souviens-toi.
Déjà grand tes ailes dans le lointain, et moi j'ai comme un goût de sel au creux des mains. Je croyais savoir quoi te dire, je ne sais rien, et là-bas dans ton avenir il y a quelqu'un. Souviens-toi qui tu es, d'où tu viens, où tu vas. Quel que soit le chemin sous tes pas, de choisir l'amour quand il viendra. Tout arrive si vite, souviens-toi de garder le soleil dans tes bras. Tous les mauvais endroits, rêver toujours en vol-toi. À trop vouloir te protéger, ce serait mal. Un oiseau s'est fait pour voler loin d'une cage. Tu verras avec tes grands yeux, tu pleureras. Parfois même quand le ciel est bleu, il y a des vagues. Souviens-toi qui tu es, d'où tu viens, où tu vas. Quel que soit le chemin sous tes pas, de choisir l'amour quand il viendra. Tu as grandi si vite, souviens-toi de garder le soleil dans tes bras, d'oublier tous les mauvais endroits, de rêver toujours en vol-toi. Un beau jour tu te poseras sur une branche, tu y chanteras la chanson de ton enfance. Puis sur un plus petit que toi, tu veilleras. Caché dans les plis de son front, je serai là. Souviens-toi qui tu es, d'où tu viens, où tu vas. Quel que soit le chemin sous tes pas, de choisir l'amour quand il viendra. La vie passe si vite, souviens-toi de garder le soleil dans tes bras, d'oublier tous les mauvais endroits, de rêver toujours en vol-toi.
Nous sommes toujours dans l'émission Autour du livre et j'accueille en troisième invité Myriam Daniel qui va nous parler de son livre Demain le passé. En milieu d'interview, nous écouterons un court extrait de son roman à suspense. Myriam Daniel. Myriam Daniel, bonjour.
Bonjour.
Alors Myriam, d'où venez-vous ?
J'habite à Sarrien actuellement, voilà, et ça fait une vingtaine d'années que j'habite dans le Vaucluse.
Et vous habitez où avant donc ?
Dans les Alpes-Maritimes. J'habitais à Cannes et j'ai suivi mon mari dans le Vaucluse.
Voilà. Voilà, donc vous êtes à Sarrien actuellement. Donc Myriam, vous avez écrit 3 livres.
Oui, et le dernier est paru l'année dernière aux éditions Sud-Arène, comme le second.
Donc je vais rappeler un petit peu vos livres. Donc Patience meurtrière, donc, qui est sorti en mars 2013 aux éditions Socris. Journal d'une folie ordinaire aux éditions Sud-Arène, sorti en 2015. Et donc, ce troisième livre dont vous allez nous parler un petit peu, Demain le passé, aux éditions Sud-Arène. Alors, un titre assez ambigu, non ? Demain le passé.
Oui, c'est parce que c'est un livre qui se passe entre les années 60 et les années 80. Sur la couverture du roman, j'ai mis la photo du mariage de mes parents et je me suis basée sur l'histoire de leur rencontre pour faire ce roman. Mais bien sûr, la suite après, c'est inventé. Mais il y a une très grande partie qui retrace leur rencontre et leur mariage.
Moi, de ce que je retiens de notre dernière rencontre, qui s'est située en février 2015, hein, à ce moment-là, vous nous aviez parlé de vos 2 premiers livres, Patience meurtrière et Journal d'une folie ordinaire.
Donc je me souviens de cette rencontre-là. D'ailleurs, je peux souligner aux auditeurs que s'ils veulent écouter cette émission pour en savoir un petit peu plus, ils peuvent le faire sur Autour du livre, février 2015. Donc aujourd'hui, c'est autour de votre troisième livre que nous nous retrouvons. Vos trois romans se trouvent être des polars. Pourquoi ce choix du polar ?
Parce que j'aime beaucoup les polars, j'en lis depuis très très longtemps, même si je lis autre chose. Et j'aime bien les histoires avec du suspense, exactement. Mm-hmm. Voilà, et des enquêtes. En fait, il n'y en a pas énormément dans mes romans. Il y en a surtout dans le second, parce que dans le dernier, il n'y a pas d'enquête policière, en fait. Hein. C'est juste l'histoire, comme ça.
Alors, Demain le passé, on est interpellé, moi je dirais, par ce titre. Vous nous avez expliqué, hein, ça se passe dans les années 60. Et en même temps, vous avez une plage des années 80. Alors, quel est, on va dire, le début de l'intrigue de ce livre ? Le début, bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur ce livre ?
Au début du livre, l'héroïne rentre chez elle. Elle a passé des vacances chez sa mère à la montagne. Et lorsqu'elle rentre chez elle, elle découvre le corps de sa fille qui est blessée dans l'appartement. Et l'histoire commence comme ça. Et après, au fur et à mesure du roman, on s'aperçoit que cette jeune femme a été blessée parce que il faut remonter à l'histoire de ses parents. Parce que lorsque ses parents se sont rencontrés, il s'est passé quelque chose qui a donné lieu à cette vengeance 20 ans après. Voilà, parce qu'en fait, c'est surtout une histoire de vengeance.
L'idée de retourner à mon appartement me révulse. Je sais ce qui m'attend. La première chose que je vais voir, c'est le tapis imbibé du sang de Maggie. L'obstacle me semble insurmontable. Je me garde devant l'immeuble avec appréhension. Je ne suis plus la même qu'à mon retour de vacances. La petite allée que je traverse pour rejoindre la porte d'entrée me semble menaçante. J'imagine qu'un tueur m'y attend caché derrière un arbre, prêt à bondir à mon passage. En ce début d'après-midi, tout est calme. Personne dans la petite ruelle tranquille. Je me dépêche d'introduire la clé dans la serrure, du moins j'essaie. Ma main est prise d'un tremblement et la clé tombe à mes pieds. Au même instant, un bruit derrière moi me fait sursauter. Ça y est, c'est la fin. La terreur me serre la poitrine comme un étau. Je me retourne d'un bond en poussant un cri, le cœur battant la chamade.
Ce livre a été édité aux éditions Sud-Arène. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi Sud-Arène ?
Parce que c'est eux qui ont édité mon second roman et que j'étais très satisfaite de cette maison d'édition. Mes éditeurs sont très près des auteurs, toujours disponibles et très sympathiques en plus.
Un projet, Myriam, pour un prochain livre ou pas ?
Oui, je suis en train d'écrire le quatrième, donc j'en suis à peu près aux trois quarts. Ça sera toujours un polar. Cela parle surtout de l'histoire d'un pervers narcissique. J'en suis aux trois quarts, donc je peux pas trop. Et pour une fois, il se passera ici. Il se passera entre Carpentras et Avignon, alors que mes autres romans se passent dans les Alpes-Maritimes. Là, voilà, j'ai situé l'intrigue ici pour changer un peu.
Alors, des projets d'écriture. Est-ce que vous avez d'autres projets que l'écriture, Myriam ?
Oui, j'ai arrêté de travailler il y a quelque temps. Donc, je vais ouvrir mon entreprise d'écrivain public. Je ferai des corrections. Je pourrais écrire des biographies et tout ce qui va avec cette activité-là. Voilà. Mais à partir du mois d'octobre, elle n'est pas encore ouverte et mon site est en cours de finalisation également.
Merci Myriam Daniel, merci à vous.
Vous écoutez l'émission Autour du livre avec Annick sur RTVFM.
J'avais envie de vous partager mes coups de cœur de ce mois d'octobre. Parole de divin sur le divan. Roman qui est sorti là en septembre 2017. Alors c'est un livre de Serge Sommer aux éditions Sogarus et Serge sera un de mes invités pour ce mois de décembre. Un extrait du livre de Serge Sommer. Jésus a dit « Soyez passants ». Être passant,
c'est traverser le monde dans l'espace-temps. Chaque instant est un mouvement, comme si nous étions continuellement en marche. Le temps est une illusion. L'instant ne fait que passer. Il n'a pas de point de réalité propre. Nous traversons le monde, notre vie est passante, mais aussi nous passons intérieurement par notre transformation, notre évolution, notre épanouissement, notre passage à la pleine conscience. Une autre phrase de Jésus en introduction à ce livre illustre parfaitement le concept de ce logion. Le monde est un pont, passe dessus, mais ne t'y installe pas à demeure. S'installer à demeure est symbolique de l'attachement que nous entretenons avec les choses et avec les autres. C'est la dépendance au désir de conserver. La projection d'un sentiment de possession qui nous pousse à vouloir garder un objet ou nous empêche de lâcher prise avec une personne chère. Nous sommes là pour passer sur le pont, c'est-à-dire pour profiter de tout. Mais rien ne nous appartient en réalité. Nous pensons posséder alors que c'est notre attachement qui nous possède. Notre état de passant donne un sens à notre vie. Il nous fait réaliser que notre seule véritable existence se trouve hors du temps, dans l'éternité de chaque instant passé, au-delà de notre entité singulière. Dans son livre « Le bonheur d'être soi », publié en 2006, le psychanalyste iranien Moussa Nabati déclarait « Nous sommes persuadés que notre douleur renvoie à un manque actuel, tangible, situé dans le réel, sans voir que nos souffrances existent avant tout dans notre passé et notre mémoire, entravant notre énergie vitale, nous empêchant de construire et d'avancer. Nous cherchons une solution au dehors, quand elle doit être trouvée à l'intérieur de nous, en nous efforçant de sortir le passé de l'épais manteau de l'oubli, pour pouvoir le reconnaître, l'accepter et faire enfin la paix avec soi-même dans le présent. Être passant signifie également être transmetteur par nos gènes, par nos actes, par nos paroles, que ce soit à nos enfants comme à chaque personne que nous rencontrons. Nous sommes dans la transmission et le partage de notre propre évolution, de nos propres expériences, de notre propre existence, pour faire évoluer notre espèce, pour que le vivant que nous véhiculons se perpétue en s'adaptant à l'évolution de la manifestation de sa création. Ainsi, la force de vie jaillit de l'univers dans toute la magie de la nature terrestre. Un goût de terre dans la bouche, ça c'est un roman de Dominique Lin. Un extrait du livre donc de Dominique Lin. Je marche. Je ne sais pas où je vais ni où je suis, mais je marche. J'en ai besoin, même si mon corps me demande d'arrêter. Le ciel est lourd, il fait lourd. Tout est lourd, jusqu'à mon sac qui me cisaille. Le vent sculpte dans la masse nuageuse une palette houleuse de gris. J'ai un océan au-dessus de moi. Le monde est renversé. Ma tête tourne. C'est peut-être la fin. Et ce goût de terre dans la bouche? Coincé au milieu de mon interrogation à propos de la frontière entre le départ volontaire et la fuite, je préfère arrêter de penser. Ce n'est pas encore le moment. Je tiens toujours la tête haute. Ça va, je n'ai pas le faciès atypique,
pas de cheveux frisés, et de teint mat, pas de regard fuyant, coupable. Hier, les agents de sécurité et la police ont contrôlé de nombreuses personnes. Pas un instant, je n'ai été interceptée, malgré mon air froissé. Mon errance est trop récente, pas encore 48 heures, pour avoir eu le temps de buriner des stigmates sur ma peau, dans mon regard, mon comportement. Le confort accumulé depuis ma naissance est une couche de protection pour mon apparence. Je n'essaie pas d'échapper aux bombes ou à la misère. Je ne viens pas profiter, comme le prétendent certains, du semblant d'opulence européenne. Dans le ciel, le blanc ouvre le gris. Un peu de noir persiste. Mais il sait qu'il ne tiendra pas des heures. Une langue de bleu se moque de lui. Bientôt, elle laissera passer les rayons obliques du soleil. Et le jour pourra s'en aller. Bonjour le ciel. Cela fait un moment qu'on ne s'est vu. Comment vont tes chevaux sauvages qui se transformaient en licorne ou en pégase? Voilà que je parle seul. Le mauvais temps a longtemps été un adversaire, un élément contraire quand je marchais dans la rue pour me rendre à mon travail. Étrange expression que de se rendre à son travail, comme on capitule et on se rend à l'ennemi. La pluie transformait mon costume réglementaire en chiffon informe, non conforme à la bonne réception de ces gens qui défilaient dans mon bureau et à qui je devais répéter les mêmes mots adaptés au bon plaisir de ma hiérarchie. J'avais des solutions dont ils ne pouvaient imaginer l'existence et qu'ils devaient accepter sans aucun doute, aucune résistance. J'étais là pour ça, fiable et affable, mais efficace. Ces gens n'existaient pas, n'avaient aucune valeur. Ils n'étaient que matière élémentaire à la survie de ceux qui me nourrissaient. Nous aussi, nous n'étions que matière élémentaire à la survie des dominants, ceux d'au-dessus de nous, qui nous rendaient corvéables à merci, nous usaient jusqu'au point de rupture. Certains ont fini en très mauvais état, se sont grillés, ont fait un burn-out, comme on dit aujourd'hui. Mais la version anglaise ne vaut pas plus que la française. Se brûler les ailes empêche de voler vers les rêves qu'on s'était inventés durant l'enfance. Comment ai-je fait pour survivre aussi longtemps dans un milieu aussi hostile? Mais ce n'est pas ça qui m'a poussée. Enfin, pas que cela.
Un livre qui est sorti en octobre aux éditions Élan Sud. Et j'accueillerai Dominique Lain en cette occasion, au mois de novembre, pour l'émission Autour du Livre. Alors, quelques événements autour du livre. Avec Bonheur de Lecture, association carpentracienne, qui propose des lectures-spectacles accompagnées de musiciens. Notez bien ces dates. Le vendredi 20 octobre à 20h30 à Bédouin. Donc dans la bibliothèque. Donc c'est une nouvelle en grande partie autobiographique écrite par Catherine Mansfield dans la dernière année de sa vie et qui s'intitule La Garden Party. Mardi 31 octobre à 18h à Carpentras au CIAP, donc le Centre d'interprétation du patrimoine, une lecture spectacle ou concert lecture qui a été créée il y a 10 ans. Et c'est un duo entre voix et contrebasse. Le texte, c'est de Charles Perrault, Podane et La Barbe Bleue. Vendredi 3 novembre à 18h30 à Camaré, dans la salle polyvalente, François Cavana Lérital. Et la Bonheur de Lecture vous invitera à entonner des chansons populaires italiennes. Jeudi 9 novembre à 18h30 à Carpentras, au Petit Théâtre de la Charité. Alors là, c'est une invitation à un voyage dans le Japon profond et dans le cœur ambigu des hommes, avec donc Yasunari Kawabata pour le roman qui s'intitule « Le lac ». Mercredi 15 novembre à 18h à Carpentras, atelier à Arévi, rue du Refuge. Donc là, ce sont des lectures de pages tirées des souvenirs d'Auguste Rama pour le vernissage de l'exposition « Nos visages 1914-1918 ». Voilà en ce qui concerne donc les événements autour du livre avec Bonheur de lecture. Nous allons prendre un petit temps musique avec Jean-Louis Murat pour le plaisir d'écouter Jean-Louis Murat tout simplement avec ce single « Le chat noir » de l'album « Toboggan » sorti en 2013.
Pris dans le vent, passe son âme, passe son âme. Le chat noir pris dans le vent, passe sa vie en cabriolant. Karma dans la folie du vent, courbe la tête, courbe la tête. Karma dans la folie du vent, courbe la tête en cabriolant. Pas l'hiver, que fais-tu du printemps? Chat tyrannique, passe, passe vite. Pas l'hiver, que fais-tu du printemps? Quand passe la neige en tourbillon. Au miroir où rêve l'enfant, la nuit s'agite, maman vient vite. Au miroir où rêve l'enfant, passe le chat en tourbillon. L'espoir relaisse au printemps, chanter la grive, passer le givre. Que l'espoir relaisse au printemps, passer la neige en tourbillonnant. Le chat noir pris dans le vent, passe son âme, passe son âme. Le chat noir pris dans le vent, passe sa vie en cabriolant. Cher amour, prise dans le vent, passe nos âmes, passe nos âmes. Cher amour, prise dans le vent, passe nos vies en tourbillonnant.
Chers auditeurs et auditrices, nous arrivons au terme de cette émission. J'espère que vous avez passé une agréable heure en notre compagnie. Si vous avez manqué le début de cette émission, sachez qu'elle sera en podcast sur notre site web www.rtvfm.net après sa première diffusion et sera rediffusée le 4e mercredi de 20h à 21h. Merci à vous pour votre écoute et au mois prochain avec une émission autour des livres de Dominique Lain. Dominique Lain qui nous vient d'Orange et que je vous invite à venir écouter si vous avez envie de voyager dans différents univers, tous plus passionnants les uns que les autres. Bonne fin de soirée et au mois prochain.